Bienvenue dans des goûts de bouffe.
Selon nous, il est important de bien comprendre les choses pour les apprécier à leur juste valeur. Notre mission est de valoriser les produits et savoir-faire exceptionnels dans la bonne bouffe.
Ainsi, dans chaque épisode, on s'intéresse à un acteur de la bouffe qui propose à nos auditeurs une offre exclusive pendant une durée limitée.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site thegoodbouffe.com. Bonne écoute!
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Des Goûts de Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui est ravi d'enregistrer les premiers épisodes à l'étranger. Car aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes en Belgique. Bonjour Philibert.
Bonjour à tous, bonjour Daniel. Oui, quel plaisir d'aller explorer des nouveaux territoires en dehors de la France. Bon, après on n'est pas allé très très loin de Paris, hein. on est qu'à 1h30 de TGV, mais c'est un bon
ça
début.
Ça va. On commence par la Belgique, c'est pas mal. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes donc à Bruxelles, au siège d'une célèbre chaîne internationale des boulangeries. Restaurant, créé il y a plus de 30 ans par un visionnaire pionnier du bio qui a révolutionné les boulangeries traditionnelles, notamment en les transformant en lieu de vie et de convivialité. L'enseigne se reconnaît désormais partout dans le monde grâce à sa fameuse table d'hôte en bois, inspirée selon la légende de la table de la grand-mère de son fondateur. Nous sommes aujourd'hui avec Alain Coumon, le fondateur du Pain Quotidien. Bonjour Alain.
Bonjour.
Et dans cet épisode spécial des dégoûts de bouffe, nous avons la chance d'avoir un deuxième invité. Il a fondé il y a quelques années une start-up food vertueuse de l'économie circulaire qui recycle les mares des cafés pour faire pousser des champignons. Nous sommes avec Julien Jacquet, les cofondateurs des Permafungi. Bonjour Julien.
Bonjour.
Alors Alain, Julien, si vous êtes tous les deux avec nous aujourd'hui, c'est pour nous parler en particulier d'un projet qui vous tient à cœur et qui vous a rassemblé. La bonne nouvelle, c'est que ça se mange et qu'on aura l'immense privilège de les goûter tout à l'heure, quasiment en avant-première. Il s'agit d'une collaboration entre vos deux maisons, mais on ne vous dit pas plus pour l'instant.
Gros teasing. Ouais.
Comme d'habitude chez nous, chez Business of Bouffe.
On s'amuse.
Avant cela, on aimerait passer un peu de temps avec chacun d'entre vous pour mieux vous connaître, revenir rapidement sur vos parcours, vos aspirations, vos valeurs, et ainsi mieux comprendre ce qui vous a rapproché et a donné naissance à cette nouvelle offre gourmande et engagée. Pour commencer, on a une question rituelle dans ces podcasts qu'on souhaiterait vous poser à tous les deux. Pourquoi la bouffe ? On commence par toi, Julien. Pourquoi la bouffe ?
Alors moi c'est le côté nature, c'est de voir la nature pousser, c'est l'étape avant la bouffe, j'ai pas les talents d'Alain.
Et du coup, c'est la terre plus, ouais, la terre nourricière.
De voir les champignons grandir. Ouais.
Et toi Alain ?
Alors moi je suis fils et petit-fils d'épicier.
Ouais, ça aide.
Et j'ai pas de boulanger. J'ai fait ma première tarte aux pommes quand j'avais 3 ans.
D'accord.
Debout sur une chaise à côté de ma grand-mère.
C'est là que tu as eu la révélation, tu t'es dit je vais en faire mon métier.
Ouais.
Bon, bah ça, on va y revenir. Après cette introduction, là, je vous pense de passer à la première partie de ce podcast avec toi, Alain, où on va justement découvrir un peu plus en détail ton parcours, les valeurs du pain quotidien, et son histoire, les enjeux. Et pour ça, je te propose d'aller carrément dans une boutique pain quotidien. On y va.
Le pain quotidien.
Alors, Alain, maintenant, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer où nous sommes ?
Alors là, on est en Belgique.
Toujours.
Ça, c'est comme avec Google Earth. Hein. Tu commences, c'est l'Europe, et puis tu zoom.
Planète.
Là, on est en Belgique, on est à Bruxelles. On est dans un lieu qui s'appelle Tour et Taxi.
Ouais. Qui est très chouette.
Qui est vraiment très beau. Dans le fond, c'est un bâtiment industriel qui a, je crois, 150 ans. Mm-hmm. Et donc, à l'époque, c'était les trains de l'étranger qui arrivaient ici. Ah, et d'accord. C'était des entrepôts sous douane. Donc, c'est là où on ouvrait les trains et on payait les taxes d'importation, etc. Mm-hmm. Et bon, la gare ici, je crois que depuis une quinzaine d'années, ne fonctionne plus. Donc, ça a été converti en bureaux, lofts, plein de choses.
Ça fait penser à Paris, à la station F, en fait.
Oui, c'est ça. Oui, ouais. C'est ça. Et donc, c'est un projet ça a pris quand même pas mal de temps. Là, maintenant, ils sont en train de construire toutes des choses autour. Donc, ça, c'est une nouvelle ville dans la ville.
Ouais, d'accord.
Donc nous on a nos bureaux administratifs ici.
D'accord. Donc okay. Le siège du pain quotidien.
Oui, le siège monde, oui. Ouais. Ah bon, même si on est une grosse petite PME, ok. Alors on a en plus de ça, on a une boutique au rez-de-chaussée, mm-hmm. où on peut venir manger, acheter du pain, etc.
Donc c'est là où on est.
Oui, c'est là où on a. Bon, ça sert aussi un peu de cuisine de test dès qu'on veut se les rouler dans la farine. On fait ça ici. Ouais. Voilà, donc Bruxelles, c'est un peu, je dirais, le berceau du pain quotidien. Bon, c'est ici que ça a démarré. Ouais. Je me souviens avoir vendu mon premier pain le 26 octobre 1990.
Bah voilà, bon, on attaque. On allait te poser des questions sur l'histoire. Voilà, bon, mais... non, avant ça, j'avais quand même une question qui est très difficile pour nous, mais tu vas nous aider à y répondre. C'est si on devait te présenter, comment est-ce que tu te définirais?
Bon, alors moi, je suis fils épicier. D'un côté, de ma maman, tout le monde, restaurateur, sommelier, machin, tout. Donc, c'est pour ça que quand j'ai cuit ma première tarte aux pommes à 3 ans, je voulais... Et puis même après, c'est que la cuisine, pour moi, est restée un hobby. Jusqu'à 15-16 ans, c'était... je voulais faire autre chose, mais pas ça.
D'accord.
Bon, ça s'est passé de vétérinaire, mais à un moment, il y a eu... mon père voulait que j'aille à l'école militaire pour devenir officier de l'armée, etc. Bon, c'était...
Ça aurait été moins drôle, ça.
Ouais, moins drôle.
Je t'imagine moins dans l'armée, maintenant qu'on a fait un peu connaissance.
Voilà, et puis, mais je voulais surtout pas la restauration. Quand je voyais du côté de ma mère, c'était des fous. Tu bosses quand les autres s'amusent. Ouais. Mes grands-parents habitaient devant la gare. Ils ont jamais vu la mer. Alors que c'était 2h30 de train. Ils n'ont jamais vu la mer. Ils n'ont jamais quitté la Belgique. Donc, et puis alors, dans le fond, le déclic cuisine, bon, plus ou moins professionnel, c'est quand j'avais 15 ans. J'ai passé deux mois dans une famille aux États-Unis.
D'accord. En échange, quoi.
Plus petit état américain, le Rhode Island, coincé entre deux Massachusetts, les Connecticut. Et donc, c'était en 1976. Et je regarde la télé et puis à un moment je vois sur ABC TV je vois un documentaire sur Michel Guérard
aux États-Unis
et
il fallut aller aux États-Unis
et en 1976 Michel Guérard était l'homme de l'année du Times Magazine.
Ah, je savais pas ça.
Énorme.
Il avait des restos aux États-Unis.
Non. Alors lui, il venait d'ouvrir Eugénie Les Bains.
Ouais.
Ok. Où il y avait 3 étoiles Michelin, mais aussi la cuisine de ma sœur, les tuyères thermales, etc. Et le titre du Time Magazine à l'époque, c'était Hold the Butter. Ah, on se retient sur le beurre.
Ouais.
Parce qu'ils avaient une cuisine nouvelle, saine,
ça. C'est la fameuse nouvelle cuisine. Ouais.
Et donc c'est quand j'ai vu ce documentaire, je me suis dit, bien, la cuisine, c'est pas que plonger des frites et tourner des steaks dans des poêles. C'est quand même un peu artistique.
Oui.
Et puis, quand je suis rentré à la maison 2 mois plus tard, j'ai dit, mon père, ok, je vais aller à l'école hôtelière. Et puis, bon, c'était un peu tard parce que je suis rentré en août et puis la rentrée en septembre. Donc, l'année d'après, donc en 77, je suis rentré à l'école hôtelière de Namur. Et là, bon, c'est 4 ans où on apprend, à l'époque, enfin, c'est peut-être différent, mais à l'époque, on était en internat, et à l'époque, on apprenait la cuisine, la salle, la sommellerie.
Ah, tout, quoi.
En Belgique, en plus, la science, les pompes à bière,
Ah ouais.
Tirer la bière à la pompe, la pression du gaz, nettoyer les tuyaux, etc., etc. Mais aussi, on apprenait la comptabilité, 3 langues étrangères.
Oh, chouette.
Moi qui voulais aller me planquer dans une, pour faire un peu, tu vois, la cuisine dans une école professionnelle, c'était, et en plus, c'était une école où il y avait des 23 nationalités différentes. Il y avait des Américains, par exemple, qui avaient fait 2 ans d'université, qui venaient. Donc, dans les classes, on était des mômes de 15 ans et il y avait des Libanais de 26.
C'est génial, en fait. Pour toi, ton âge, c'était...
Ouais, oui. Donc assez international. Et puis, on s'aperçoit que c'est un métier, je dirais, où on peut tout faire. Voilà, donc 4 ans se passent. Bon, moi, ce qui m'intéressait, c'est la cuisine, mais j'étais obligé aussi, de temps en temps, de faire sommelier, etc.
Et tu gardais Michel Guérard en tête.
Et puis, oui, c'est ça. Du coup, j'avais acheté mon premier bouquin de cuisine. C'était le bouquin de cuisine de Michel Guérard. Et puis après ça, je me suis dit, non, je veux aller travailler dans un grand resto.
Ouais.
Et puis à ce moment-là, j'ai pris le guide Michelin.
Ouais.
Bon, j'ai écrit avec une vraie machine à écrire de l'époque, avec tac, 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 tac.
Tu as envoyé une lettre, quoi.
J'ai fait une lettre standard en disant, voilà, petit belge, école hôtelière. En plus, j'avais fait quand même un stage dans une très, très bonne pâtisserie. Et je dis, voilà, je propose mes services pour venir travailler 1 an sans rémunération.
Sans rémunération?
Et alors, à l'époque, je crois qu'il y avait 13 ou 17 3 étoiles Michelin en France.
Tu vises la France à ce moment-là.
J'ai fait une photocopie, à l'époque, une polycopie de la lettre.
Ouais.
Et je l'ai envoyée à 17 chefs.
3 étoiles.
Et sur les 17, j'ai eu 3 réponses positives.
Ah, quand même.
Bah, sans rémunération,
et
ça aide.
Puis,
c'est un bon argument, t'as raison.
Et puis bon, je peux venir, j'ai eu le choix, donc j'ai choisi Georges Blanc à Venasse.
Ouais.
pas mal. Hein, où je suis descendu avec ma vieille Peugeot d'occasion qui ne m'a pas lâché avant la destination. Mmh. Et puis là, après 6 mois, Georges Blanc me dit, mais écoute, si tu restes un an chez moi, je te paye au SMIG. Et je dis, mais pourquoi? Bon, j'avais dit que je venais un an gratos, c'est pas... Et puis il voit que ben, tu veux faire quoi? Ben, j'aimerais bien aller bosser chez Michel Guérard. Et puis il a pris son téléphone, il a appelé Michel, et puis 4 mois plus tard, j'étais à Eugénie-les-Bains.
Bravo, voilà. Génial.
Belle histoire. Donc, mais aussi panique, parce qu'à un moment, tu arrives dans la cuisine du bon Dieu, est-ce que je vais être à la hauteur, etc.
Tu es face au maître.
Voilà, donc c'est...
Tu as fait combien de temps avec Michel Guérard?
Alors moi, à l'époque, il fermait 3 mois l'hiver, donc c'est une saison.
D'accord.
Et puis après la première saison, il voulait que je reste, etc. Et puis c'est quand même le fin fond du monde.
Voilà. Tu t'es payé?
J'étais payé.
Payé, ouais.
Enfin, aussi, SMIC, bon, au niveau des heures, c'était...
Oui,
faut pas regarder le taux horaire classique.
Non, mais on s'en fout, bon, déjà. Être...
Oui,
t'apprends, et là,
t'as une école.
Oui, oui, oui. Puis après ça, j'ai fait une petite parenthèse. Je suis allé travailler à New York comme chef privé. Puis après cet épisode à New York, je suis revenu en France. J'ai retravaillé à Paris pour Alain Sandrins.
D'accord, encore des belles maisons.
Paix à son âme, Robuchon aussi. Mm-hmm. Et puis j'ai fait un petit séjour aussi à Milan, chez Gualterio Marchesi, qui était à l'époque le seul 3 étoiles d'Italie.
En Italie. Et quand est-ce que tu décides donc créer ton propre restaurant, en fait,
ce périple, je me dis, ok, bon, on va retourner en Belgique, c'est pas si mal que ça, à part la météo. Et puis j'ai ouvert un petit bistrot à Bruxelles dans un hôtel qui s'appelait l'hôtel du Nord d'ailleurs.
Ouais, ça, comme quoi, c'est une trame.
C'est l'hôtel du Nord, mais qui a été rebaptisé l'hôtel du Dôme. Mmh. Enfin, j'ai ouvert un resto au rez-de-chaussée qui s'appelait le Café du Dôme. Et donc, c'était bonne cuisine, panab, ce qu'on appellerait bistronomique maintenant.
Ouais.
Donc, c'est en 90, hein, donc c'était il y a 30 ans, donc on invente très peu de choses.
Ouais.
Et puis, alors là, le truc, c'était un peu particulier parce que j'étais partenaire à 50-50 avec les propriétaires de l'hôtel.
D'accord.
Et puis après, un certain temps, je trouvais que la qualité du pain...
On arrive enfin au pain.
La qualité du pain en Belgique était assez pas terrible.
Ouais.
Et donc, à un moment, j'avais rencontré Lionel Poilane à Paris. Hein, parce que quand je travaillais chez Alain Sanderens, on faisait nos petits pains... 2 fois par jour chaud pour le resto, mais Poilane livrait 2 pains tous les jours pour le plateau de fromage.
Ah.
Comme c'est un petit restaurant, ils ont employé un petit morceau, et donc le lendemain, le vieux pain, c'était pour la table du personnel.
Du personnel.
Et donc on mangeait du Poilane, et c'est là que j'ai découvert...
C'est qu'il était un bon pain, quoi.
Ouais, et quand je rentrais le week-end...
Mais même à Paris, à l'époque, je pense que les pains, ils n'étaient pas terribles non plus, à part quelques exceptions comme...
Oui, et puis Poilane, moi, c'est parce que la France était le pays de la baguette. Poilane, bon, il n'y a pas de pain blanc, c'est que farines complètes, etc. Et puis quand j'ai ouvert mon resto, je suis allé voir Lionel et je lui dis, voilà, bon, est-ce que je peux acheter du pain? J'avais trouvé un petit courrier express qui s'appelait Paris-Bruxelles Express.
Ah, t'es obligé d'aller à Paris chercher ton pain.
Et là, j'avais fait un deal avec les gars et tous les jours, ils s'arrêtaient rue du Cherche-Midi. Ils prenaient 3-4 miches de pain, ils les déposaient. Donc, j'avais du pain frais. Et le truc, ça a duré 2 semaines.
Ouais, parce que il faut combien de temps en voiture,
non,
en camion?
Non, c'est pas ça, c'est 2h30. Ça a duré deux semaines. Pourquoi? Parce que à un moment ils se sont fait choper à la douane par les douaniers et c'était pas encore les frontières ouvertes comme maintenant.
Bien sûr.
Ils auraient dû faire des documents douaniers tous les jours
pour les
qui coûtaient plus cher que le pain.
Que le pain,
bien sûr.
Pain
donc à un moment c'était
un sens économique,
très
quoi.
Très triste avec non ça, on peut pas le faire, bon on perd du temps, etc. Ah bon, je dis ok, il faut que je fasse mon pain moi-même. Et donc là j'ai pris à l'époque l'annuaire téléphonique, les pages jaunes, et j'ai regardé matériel de boulanger. Je suis tombé sur des mecs, Je les ai appelés, 2 heures après, ils étaient là, et j'ai acheté un four de boulanger de 3 tonnes à 25 000 euros.
Ah ouais, pétrin. Comme ça, pour avoir un bon
pain. Comme ça, et puis...
Tu n'avais pas une boulangerie, tu avais un restaurant. Oui. Ouais.
Et puis, alors,
le pain, c'est un sujet si sérieux que tu dis, je veux dépenser 25 000...
Oui, parce qu'en plein, un vrai four de boulanger, ça coûte, c'est pas...
C'est clair.
Voilà. J'aurais pu faire du pain dans un moule, dans un four répulsé de ça. Mais bon, je voulais faire du pain cuit sur pierre.
Bon, faire les choses bien.
Et alors, ce qui est très marrant, c'est que je voulais faire du pain au levain, mais à l'époque, au niveau littérature, il n'y avait rien. Mmh. Il n'y avait pas l'Internet. Mmh. Bon, en France, vous aviez le Minitel, mais en Belgique, ça n'existait pas. Mmh. Ouais. Et donc, pour finir, la recette du pain au levain, je l'ai trouvée dans un guide de voyage gastronomique écrite par une journaliste critique du New York Times qui s'appelait Mimi Sheraton, qui faisait toutes les critiques de resto, mais qui se déguisait.
Ah, j'ai lu un bouquin.
Oui, et elle avait fait un guide de Food Lover Guide to Paris. Mm-hmm. Et là, bon, elle parlait des restos, des hôtels, etc. Elle avait sympathisé avec Lionel Paulhan et il y avait... je sais pas, 10 ou 15 pages sur
Paulhan,
ouais. Où elle expliquait comment faire le vin.
Là, c'est ouais. Le savoir-faire. Ouais,
en anglais. Et c'est un bouquin que j'avais piqué à mon ex-patron banquier à New York qui, il mangeait que des patates et des gros steaks et des glaces vanille. Bon, après, les légumes, ça les faisait chier. et donc, c'est là où j'ai vraiment appris la théorie du comment on fait son levain. Quoi. Ouais. Et puis de fil en aiguille, alors le truc à l'époque, j'avais acheté deux immeubles en mauvais état, que j'allais retaper, où j'allais mettre la boulangerie, et puis les immeubles pendant les travaux se sont effondrés, enfin un truc horrible. Pour finir, j'ai installé la boulangerie dans un petit garage que je louais au moins le mois. Mmh. C'est près de l'abattoir ici, à Boitard d'Anderlecht. Mmh.
Parce qu'au début, le pain, il est destiné à ton restaurant. Alors, tu te dis, je vais le vendre et le proposer à d'autres.
Le problème, c'était un four à gaz. Et le four à gaz, c'était, pour le remplir, c'est 48 miches de 2 kilos.
Ah, donc tu es obligé d'en faire beaucoup.
C'est 100 kilos de pain. Donc pour le resto, bon, c'est
un
peu...
L'envie d'avoir du bon pain dans ton resto t'a forcé à lancer une boulangerie qui est devenue...
Alors le truc au début, c'est un hobby, quoi. Donc alors avant, tu dis, ok, est-ce que je vais le week-end, est-ce que je vais à la pêche, je fais du pain, bon...
Je fais du pain.
Alors les hobbies, c'est bien, mais aussi, il faut pas que ça soit un hobby trop cher. Donc avant, je me dis, bon... Alors j'essaie de trouver 2-3 copains restaurateurs qui allaient acheter un peu de pain et tout. Difficile. Je me dis, avant, il faut une petite boutique. Et donc, j'ai trouvé une petite boutique rue Antoine Dansart, qui n'était pas très, très loin, avec un tout petit loyer, 12 000 francs belges, c'est avant l'euro, donc ça fait 300 euros par mois, 36 mètres carrés. Mmh. OK. Et puis, de fil en aiguille, je me dis, bon, je vais faire du pain au levain, du pain complet, un peu moyenâgeux. Donc, il faut planter un décor. On va pas faire du contemporain, quoi. Et donc, je suis allé au marché aux puces. J'ai trouvé une grande table de 3,63 m, sur 1,12 m de large. Et c'était une table de couturière. C'est pour ça que les bouts sont arrondis. Hein, c'est quand on déplie les tissus, si on tire dessus, ils s'accrochent pas à l'angle. Et puis, je crois que j'avais payé la table, je sais pas, 100 euros. Et puis, j'ai acheté des chaises à 1 euro. Ouais. Des chaises pliantes. Hein, en Belgique, par exemple, quand tu fais une grande fête, t'as le marchand de bière qui te prête des chaises pliantes. En général, il y a la marque de bière derrière, hein, des tables, etc. Et c'était des trucs... puce. Ouais. Donc j'achète, je pouvais mettre 14 chaises autour de la grande table, 14 chaises.
Donc il y a déjà cette table commune.
Oui, un vieux comptoir en bois, en pain, et puis je vois une espèce de grille à pain dans une espèce d'étagère en fer forgé, hein, pour mettre le pain. Et ça démarre plus ou moins comme ça avec, à l'époque j'avais que un pain. Voilà. Ouais. J'en ai vite fait un deuxième parce que les gens
ils en avaient marre.
Donc j'avais mélangé avec le pain de blé avec un peu de seigle, etc.
Tu l'appelles comment à ce moment-là, la boulangerie?
Alors elle s'appelle le pain quotidien depuis le départ.
Ah, c'est déjà venu tout de suite.
D'accord.
Oui, donc dès que j'ai eu faire du
donc
pain,
cette boutique est la première boutique du pain quotidien.
Alors, dès que j'ai voulu faire du pain, je sais pas, un jour j'étais avec mon père qui m'expliquait que je fais pas ça, c'est pas mon pain quotidien. Mmh. Donc moi je fais pas je bois pas du vin avec du sulfite. Ah, c'est pas mon pain quotidien.
Ouais, donc cette expression elle est restée chez toi. Pain quotidien,
ah tiens. Ouais. We have the name.
Donc du coup la boulangerie elle s'appelle le pain
voilà,
quotidien.
Ah donc du coup aussi bon je dépose le nom, hein, ouais. Je fais un dépôt de marque
bonne idée.
Benelux hein, parce que oui. En Benelux, Belgique, Luxembourg, on avait un bureau de marque
commun.
Bon, je fais ça tout seul, sans avocat, ça coûte, je sais pas moi, 100 euros ou un truc comme ça. Et puis bon, on démarre. J'ai une copine graphique qui me fait un petit logo qui est toujours le logo actuel.
C'est fou ça, en fait, à l'époque.
Et qui me facture le logo, je sais pas pour 200 euros. 200 euros, et puis en plus elle me donne déjà dans le prix 500 enveloppes avec le logo imprimé dessus, les lettres en tête, etc. Donc tout est là, hein, le pain au levain, le mobilier, etc.
C'est déjà donc une boulangerie qui est aussi un espace de dégustation, donc de restauration.
Alors le truc au départ, je me dis bon, je vais faire une fournée de pain par jour, 100 kilos, le vendre, mais je vais remettre une petite nana sympa derrière le comptoir, hein, ou un petit beau gosse sympa derrière le comptoir. Bon, ça va coûter un salaire. Pour vendre du pain, ça va être compliqué. Alors pour finir, il y a un marchand de café qui me donne la machine gratuite et qui me vend le café 4 fois le prix. Ouais. Et je reçois un petit frigo de porte du InBev, un marchand de bière, Stella, etc. Ouais. Et il me donne un petit frigo de porte. Et dans le fond, ce petit frigo de porte pour mettre 6 bouteilles de bière devient la cuisine. Et donc, dès le départ, c'est un one-woman show. Et donc, on vend deux sortes de pain, deux gâteaux que je fais dans mon restaurant, que je fais glisser dans la boulangerie. Et on vend du café. Du jus d'orange qu'on fait même pas nous-mêmes frais mais livré par le crémier, et il y a 5 tartines, 2 salades, il y a pas de soupe, il y a pas d'œuf, il y a vraiment très très peu de choses. Et puis très très vite entre-temps quand j'avais mon resto, j'avais quand même écrit un petit livre de cuisine. Mmh. Bon, que j'avais écrit pendant l'année de construction du restaurant. Et que qui a quand même fini, qui a été publié chez Lafont et que signé par Michel Guérard. Donc c'était pas un petit coup de bol. Hein, ouais. Parfois dans la vie il faut
ça aide.
Mmh. Et donc quand j'ai ouvert la boulangerie, l'attaché de presse de Robert Lafont en Belgique, bon, je l'ai engagé pour s'occuper de la promo. Donc le jour, le 26 octobre 1990, quand j'ai ouvert la boutique à 7 heures du matin. Alors le truc, c'était la boutique était ouverte de 7h à 7h, 7 jours sur 7. 7-7-7, ok. Et donc ce...
Ah, 7-7-7.
Oui, et pour le premier jour, je crois que la PR, assez professionnelle, connaissait tout le monde. Elle avait, je crois que j'ai pris 14 petits déjeuners, mais espacés, je crois que c'est un quart d'heure. Mmh. Ouais. Donc j'ai bu 14 cafés, j'ai mangé... 14 tartines de confiture, etc.
Ouais, il faut donner de sa personne.
Et puis, trois jours plus tard, dans le quotidien belge, disons, le francophone le plus diffusé, qui s'appelle Le Soir.
Ou Le Soir.
On a eu une page complète. Donnez-nous notre pain quotidien.
Magnifique.
Gros coup de pub.
Ah, mais le truc.
Explose, quoi.
Ça vient trop vite.
Toi, t'es pas prêt. Non, de lancer.
La fournée par jour que je faisais, mais c'était plutôt une fournée tous les deux jours, c'est pas au levain qui se gardait, etc.
Ouais. Là, c'est trois fois par jour, quoi.
Ça arrive, et puis à un moment, ça commence à devenir du jour et nuit, un truc complètement débordé.
Et les restos, tu l'as fait quoi avec les restos? Tu l'as fermé en
moment? Non. Alors, le resto, j'étais toujours associé avec les gens de l'hôtel. Et puis à un moment, eux, ils ont vendu l'hôtel à un groupe hôtelier espagnol, NH.
NH, ouais.
Ah oui, voilà. Ah. Et du coup,
on connaît maintenant.
J'ai été vendu plus ou moins avec l'hôtel. Et puis à un moment, j'ai dit.
Je m'en vais, quoi. Okay.
Je m'en vais.
Donc, le pain quotidien était ton.
Oui, évidemment, bon, je me suis. Bon, je suis passé, bon, du restaurant un peu gastronomique à la tartine au jambon. Quoi. Ouais.
Comment t'expliques ce succès à ce moment-là? C'est l'offre, c'est le pain qui est vraiment différent de ce qui se passe à l'époque? C'est le lieu de vie?
Le pain déjà est très très bon, et puis aussi on est pris d'assaut par les branchés. Donc c'était la rue Antoine Dansart.
Branchés.
À l'époque, c'était toutes des petites boutiques pas très très chères, uh-huh. mais c'était tout un petit peu les petits couturiers alternatifs, etc. Uh-huh. Et donc c'est une rue où les grandes marques n'existaient pas, mais c'était un truc ultra branché. C'était ouais, le
très, tu étais au bon
très,
endroit,
très artsy, etc.
Ouais. Okay. Pour un concept qui était nouveau.
Oui, voilà. Et puis pris d'assaut par les branchés. Il y avait les gens se battaient pour s'asseoir autour de la table.
On avait
Le week-end, on avait un petit radiateur au bas. Il y avait 6 personnes assises sur le radiateur en train de. Enfin, c'était débordé. C'était la galère, enfin, pas la guerre.
Bonne galère.
Oui, la bonne galère. Mais on n'avait même pas de caisse enregistreuse. C'était une boîte à cigares. On mettait l'argent dedans le soir. J'ouvrais la boîte à cigares. Espérons que mes employés m'ont laissé un peu d'argent dans la boîte.
Et sur le pain, véritablement, ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est le fait que ce soit du pain au levain.
Oui, parce que le pain au levain, bon, je dirais. Alors, parce que maintenant.
Ça se trouvait pas ailleurs avant, à l'époque.
Non, ici. Alors, le pain au levain, c'est pareil. C'est que même, il y a des boulangers qui font du pain au levain, mais ils dopent quand même, ils mettent
des levures.
un peu de levure, ça aille plus vite. Mm-hmm. Donc, enfin,
toi, tu mets pas de levure.
Voilà, non, c'était.
À l'époque.
Voilà.
Tu les laisses pousser.
Et donc, c'est un process de 8-9 heures, hein, c'est long, quoi.
Nous, ce qu'on a découvert, en fait, en préparant le podcast, c'est l'engagement que tu avais déjà au départ. On a appris même qu'en 2006, en fait, déjà, presque tous les produits étaient bio au pain quotidien. C'est une démarche aussi qui est très propre à toi.
Déjà, en 2000, le label bio n'existait pas.
Oui.
Avant le label bio, il y avait des petits pis là du côté dans le Gard là du côté de Nîmes et tout ça qui avait créé. Il y avait un label qui s'appelle Nature et Progrès. Mmh. Et ça, c'était, j'irais un truc personne ne savait ce que c'était. Mais à l'époque, les magasins bio, ça s'appelait pas des magasins de bio. C'est ici, ça s'appelait des magasins de régime. On achetait déjà des produits naturels, vegan, des petits. Mmh. Et donc le bio, c'est quelque chose qui est arrivé, c'est avec l'Europe. À un moment, donc je ne sais plus exactement quand c'est arrivé, mais on était déjà, le sourcing des produits, c'était des petits producteurs locaux, etc. Bon, on vendait des confitures faites par des mamies à la maison, dans des chaudrons, tout ça.
Ouais.
Et puis aussi là, derrière moi, il y a tous ces produits là. C'était peut-être pas après 2 ou 3 ans.
Ah, t'as commencé à développer tes propres produits.
Non, ça c'est des produits qui viennent de Tunisie. Et D'accord. puis après 2 ou 3 ans, j'ai un copain journaliste qui me dit tiens, je travaille pour une fondation qui fait des projets dans les pays en voie de développement, mais c'est pour développer une activité économique. Mmh. Et ce qui se passait à l'époque, c'est que par exemple en Tunisie, qui était je crois le deuxième ou troisième plus grand producteur d'olive planétaire, c'est que toute l'huile d'olive était achetée par le gouvernement, était vendue en bateau-citerne, en pétrolier, pour avoir des devises étrangères.
Ouais.
Donc c'est-à-dire qu'en Tunisie, un moulin d'huile d'olive ne pouvait même pas vendre de l'huile d'olive aux Tunisiens. Donc les Tunisiens manger de l'huile de soja américaine.
Non.
C'est interdit. Bon, il y avait quand même un président un peu fort à l'époque.
Oui.
Okay. Comme il y a eu des accords commerciaux avec l'Union européenne, en Tunisie, ils ont dû mettre leur truc un peu plus honnête. Et moi, je suis tombé sur une famille, la famille Majoub, qui avait un moulin à huile d'olive. Et donc, eux, avec la fondation, on les a aidés à faire un packaging et j'ai eu la première bouteille d'huile d'olive qui a quitté la Tunisie où était marqué produit de Tunisie.
Ouais.
Et les mecs étaient pas labellisés bio mais ils étaient bio
dans l'âme.
Voilà, et puis là, en Tunisie là-bas dans l'oliveraie, il y a des pièces avec des bouts de moulin à huile romain, etc. parce que la Tunisie était le grenier à blé et à huile d'olive des Romains.
Mmh.
Hein, je dirais le nord de la Tunisie, il est plus haut que le sud de la Sicile. Hein, donc c'était. Et puis le fil en aiguille, ils ont fait l'huile d'olive. Et puis j'aurais dit qu'est-ce qu'on veut faire d'autre. Alors ils faisaient déjà des très bonnes olives. Et puis, en Belgique, à l'époque, moi, j'avais un pote qui avait un restaurant italien et je mangeais des superbes, déjà, mozzarella di bufala, des tomates séchées au soleil qui venaient en voiture d'Italie. Et je dis à mes potes, mais là, il faudrait me faire des tomates séchées au soleil. Et puis, ils ont commencé avec ça. Et puis, pour finir, on a toute une gamme. Hein, on a des harissa, des capres sauvages au sel et tout, des super produits. Et puis quand au pain quotidien, c'est dans les années 2000, on a vraiment été plus sur le bio, on s'est fait certifier. Bon, j'ai dit à tous mes fournisseurs de l'époque, marchands de confiture et tout, il faut passer au bio. Et donc en Tunisie, là, ils ont relevé le truc, ils sont passés en bio, même s'il était techniquement
déjà, ouais.
Mais bon, il y avait un cahier des charges déjà au niveau du compost et tout, donc ils ont acheté un bulldozer pour faire leur compost, enfin bon. Et donc là maintenant, ça fait pratiquement, je sais pas, 25 ans qu'on travaille avec eux, et c'est des produits superbes. Alors, aussi, à un moment, je sais que vendre de l'huile d'olive tunisienne en Belgique, c'était, pour les Italiens, ils aimaient pas trop. Voilà, donc ça, c'est toujours le... dans la cuisine, un produit, ça démarre au champ, quoi. Hein. Donc, c'est presque une filière de la fourchette à la fourche à la fourchette. Bon, voilà un petit peu. Et donc le pain quotidien, bon, ça a démarré comme une boulangerie, et puis on est devenu, je dirais, un peu restaurant.
Et cet engagement-là, qui était très précurseur à l'époque, en fait, on les retrouve aujourd'hui à nouveau. On a fait un petit teasing au début d'une collaboration donc du pain quotidien avec Permain Funghi. Donc, on va peut-être dévoiler, Philibert. Est-ce qu'on a les droits de dévoiler déjà?
À ce stade, oui, voilà. Non, on a peut fait dévoiler. Teaser, donc, ça fait plus d'une demi-heure qu'on enregistre. Maintenant, on peut en dire un peu plus.
Donc, en fait, c'est qui vous avez... Il y a une collaboration avec Permain Funghi qui est assez intéressante. Est-ce que tu peux nous raconter déjà de quoi il s'agit, comment vous l'avez rencontré et quels sont les produits aujourd'hui? Parce qu'apparemment, on a bien compris, c'est une relation qui date déjà un petit peu. Et quels sont les produits que vous avez développés ensemble?
Alors, bon, comme beaucoup de rencontres, hein, on s'est rencontrés par accident. Okay. Alors nous ça fait 6-7 ans maintenant qu'on a pris nos bureaux ici dans cet immeuble de Tour et Taxi, hein, cette ancienne gare de marchandises. Et comme c'est un endroit, c'est plusieurs hectares, il y a plein d'entreprises, etc. Permain Funghi, eux, bon, faisaient leurs petits champignons dans une cave, mais il y a des hectares de caves au sous-sol.
Ah, on s'est perdu tout à l'heure.
Et donc, bon, ils étaient là, et puis je sais pas comment, à un moment, on a vu de temps en temps des gars qui passaient avec des cagettes de champignons, et puis on a posé des questions, et bon, c'est comme ça, on a sympathisé, et puis il y avait aussi ce projet, je dirais, engagement social aussi, hein, parce qu'au départ, c'était presque une assoce, hein, c'était donner du boulot à des gens... En pas, situation précaire.
Peu qualifié, ouais, c'est ça.
Voilà. Voilà, donc ça a démarré, et puis à un moment, on s'est dit, les champignons, on fait des potages, des quiches, des trucs, des salades. On a commencé, j'irai leur acheter des champignons. Ouais. Voilà, donc c'est quelque chose qui est venu un peu d'une manière naturelle. Là aussi, je dirais, depuis un an avec le confinement, c'est que ils travaillaient beaucoup avec des restaurants locaux, hein, donc la restauration un peu sinistrée, un peu compliquée. Bon, ils vendent un peu dans les magasins bio, mais le problème des magasins bio en Belgique, c'est que ils veulent pas des cagettes, ils veulent des petites barquettes individuelles, ça. Donc, à un moment, ils avaient un peu de problèmes, des clients, et on s'est dit, ok, bon, on va les aider, quoi. Nous, pourquoi pas, forcer un peu sur le champignon. Ok, ouais. Hein, mais en respectant les limitations de vitesse. Et voilà, donc en faisant un truc vegan, l'avantage c'est que le champignon devient la star. Hein, ouais. C'est pas le poulet avec deux tranches de champignon pour.
Ouais, parce que c'est ça la grosse différence, et c'est ça la collaboration, c'est que vous travaillez depuis plusieurs mois, plusieurs années avec Permain Funghi, mais là vous avez décidé de faire un vrai produit vegan mis en avant, ou dans lequel le champignon sera.
Oui, et puis là avec Permain Funghi, on communiquait pas vraiment, et je trouve qu'au niveau de l'histoire, bon, déjà comparé à Disney, c'est que ici c'est des histoires vraies, c'est pas du la fiction, des contes de fées. Il y avait une jolie histoire, et on s'aperçoit que les gens adorent.
Hein, c'est clair.
Surtout maintenant, un petit rayon de soleil dans cette
Et les bannes, c'est que vous avez développé ensemble, c'est un peu la cerise sur les gâteaux de cette collaboration-là.
Oui, en fait, alors, l'étape qui... Et puis nous aussi, au Pain Quotidien, c'est que, bon, on a quand même, on est une société moyenne. Bon, on n'a pas des centaines de restos, mais on n'a pas de restos. Donc ça veut dire que on a des gens qui travaillent pour nous qui sont pas nécessairement des chefs super professionnels. Donc ce qu'il faut, c'est des préparations, je dirais, très simples. Et moi depuis le début, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cuisine. C'est des produits avec des pédigrés, ok, du bon pain, du bon beurre. Une bonne tranche de jambon avec un sans nitrite, machin, etc.
Ouais.
Et voilà, ça fonctionne. Et je pense qu'aussi, au niveau culinaire, je crois que les gens, à un moment, la créativité, c'est bien, mais parfois, quand on tripote trop les ingrédients, on veut retourner aux choses très...
Les plus brutes possibles.
Ouais. Oui, brutes. Et pour nous, comme on sait que dans la cuisine, on n'a pas des prix Nobel de gastronomie. Hein, on n'a pas des, des Inaki ou des Alain, parce qu'il y a beaucoup de Alain.
Il y a beaucoup d'Alain dans la gastronomie.
Il y a des morts aussi, déjà. Du bon pain, du bon beurre, des produits avec un pédigré, facile à réaliser.
Je propose que tu t'arrêtes là parce qu'on va goûter ces bannes ensemble et on va pouvoir parler plus en détail du produit. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est peut-être aller à la rencontre donc des Juliens qu'on a vu en intro, mais pour comprendre un peu plus en détail la démarche des Permafungi. Et je pense que là, on va mieux comprendre en fait cette collaboration un peu circulaire que vous avez mis en place, qui est assez chouette.
C'est parti, on y va, ça va.
Le pain quotidien.
Alors Julien, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs où nous sommes ?
Alors là, on est dans les caves, dans la troisième étape de Permafungi, où on fait pousser les champignons.
Donc juste derrière toi, on voit des champignons en culture, mais ça on aura l'occasion d'y revenir. Avant de découvrir la production de champignons, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter la naissance de Permafungi ?
Alors, je m'appelle Julien Jacquet, et la naissance de Permafungi, c'est la rencontre de plusieurs personnes qui avaient des profils différents. Il y a un agronome, il y a quelqu'un qui est intéressé par l'entrepreneuriat social, il y en avait un qui avait plutôt des notions entrepreneuriales économiques. Et l'idée, c'est de mettre toutes ces compétences ensemble pour créer un projet qui tenait la route sur base d'une idée qui était repérée en Thaïlande.
Elle vient d'où cette idée-là en Thaïlande ? Qui et comment vous avez eu la révélation ?
Alors, un des fondateurs qui s'appelle Martin a étudié l'agronomie.
Ouais, donc c'est l'agronome.
Ouais, il est parti après ses études en Thaïlande à vélo. Il adorait le vélo, donc il a traversé toute l'Europe, puis l'Asie, et il est parti travailler dans une ferme de permaculture en Thaïlande.
D'accord.
Et il a vu des champignons pousser sur du marc de café. Il s'est dit, mais j'adore le vélo, je vais aller chercher du marc de café à vélo. Le marc de café, ça a l'air de rien, mais c'est devenu un déchet ultra abondant. Je vais faire pousser des champignons et je vais les livrer à vélo. Et là, c'était l'idée de base. Et puis
il a eu l'idée de ramener ça à Bruxelles.
Ouais.
Et il a pitché ça à toi et tu as dit, on y va, on fait ça ensemble.
On était plusieurs. Et donc, on s'est rencontrés au fur et à mesure. Et en fait, il y a eu deux projets qui ont eu la même idée. Et ça, c'est intéressant. C'est de voir que quand il y a une idée qui se passe dans un cerveau, en général, il y en a la même dans plusieurs milliers de cerveaux dans le monde. Alors, comment ça peut se faire ? C'est qu'en même temps, il y a un livre qui s'appelle « L'économie bleue » qui parle... non pas de l'économie verte de polluer moins, mais l'économie bleue qui est de ne plus polluer du tout, qui parlait de ça. Alors, est-ce que c'est...
Pas spécifiquement des champignons poussés dans des mares des cafés, ou l'idée de l'économie circulaire, de récupérer des déchets.
Il parlait de l'économie qui ne pollue plus du tout, mais il donnait l'exemple des champignons. Alors, est-ce que les Thaïlandais se sont inspirés de ce livre qui est devenu un best-seller ? C'est un Belge qui a écrit ça, mais c'est devenu un best-seller. Est-ce que c'est l'inverse ? Ça, c'est une bonne question. Mais disons qu'il y a deux projets qui ont eu cette idée de dire, mais ça, il faut le ramener. Et ces deux projets sont rencontrés, on s'est dit, il y a plus d'idées dans six têtes que dans une. Et du coup, on est...
Ça n'existait pas ailleurs, c'est vraiment c'est les Thaïlandais qui ont trouvé ça, ou c'est des études scientifiques ? Comment eux-mêmes ont trouvé qu'on pouvait cultiver des champignons sur du marc de café ?
Alors moi, je ne suis pas vraiment à l'aise avec l'idée d'invention. C'est le champignon, il pousse sur ce qui est organique. Alors là, il faut retrouver notre humilité d'humain et de se dire, on n'a rien inventé. Les champignons, ils poussent sur des feuilles mortes, ils poussent sur du marc de café. Par contre, ce qu'on a inventé, c'est qu'un système où on utilise 3% ou 2% du café et qu'on jette 97%. Et qui a ce marc de café dans la ville ? Et que le champignon, c'est le dégradé. Et ce qui est magique, c'est que non seulement on a le champignon, mais que le champignon a transformé le marc de café en compost. Donc on n'a plus de déchets. Et donc, je dirais que, en tout cas, nous, on revendique pas du tout l'invention de ça. Mais par contre, ce qu'on revendique, et on revendique en général pas les idées, mais la façon de le faire.
Ouais, c'est le fait de le mettre en œuvre.
Ouais. Et au départ, c'était quoi l'ambition, en fait, avec ces projets? Vous voulez constituer une entreprise, une licorne qui vaut des milliards de dollars? Ou c'était un projet plutôt social? Quelle était la vision au départ?
La vision au départ, c'était de contribuer à la résilience urbaine, c'est-à-dire comment la ville de demain peut surmonter les chocs en recyclant des déchets, en produisant de l'alimentation locale, en créant de l'emploi qui est peu valorisé en ville, en minimisant les énergies fossiles. Et donc, vous voyez que c'était pas si simple parce que ces 6 personnes qui se sont rencontrées avaient des objectifs différents et donc on s'est cassé pas mal la tête sur le concept.
J'imagine, ouais.
Et essentiellement sur le côté social et environnemental. Mmh. Et pour nous, le côté économique, et ça c'est resté, a toujours été un moyen. Mmh. Et ça paraît évident aujourd'hui, mais je pense que déjà il y a 7 ans, ça l'était moins. Mmh. Et même si c'est évident, on a du mal à le faire, de mettre l'économique au deuxième plan, parce que c'est stressant évidemment l'économique, c'est ce qu'on voit. Et au final, moi j'aime bien cette idée que les idéalistes se professionnalisent et deviennent rentables, parce que si dès le départ on vise la rentabilité, il y a plein de choses qu'on fait pas. Moi j'ai un exemple que j'aime bien, c'est que si on le fait, le marc de café ça coûte cher, on l'a gratuit mais il faut aller le chercher à vélo tous les matins.
Bien sûr.
Et si on n'a pas cette idée folle de prendre un mi-temps pour aller chercher du marc de café à vélo, on n'a pas le système qu'on a avec le pain quotidien aujourd'hui, qui est la logistique inversée qui ne coûte plus rien.
Bien sûr.
Si directement on avait dit on n'a pas besoin de marc de café, ça aurait été plus économique, mais on n'aurait pas du tout eu le côté social environnemental. Et donc je crois que notre sensibilité à ces notions-là au départ donne le permafungi d'aujourd'hui qui a atteint sa rentabilité après.
Alors du coup, tu as parlé de toutes ces ambitions qui étaient incarnées par les 6 personnalités. Alors comment elles se sont retrouvées, comment tu résumerais du coup le concept aujourd'hui de Permafungi? C'est quoi? Ça commence par la collecte déjà, qui se fait à vélo. Tu peux nous expliquer les grandes étapes et ensuite on viendra sur la production.
Oui, alors il y a 3 activités sur Permafungi. La première, c'est de récolter du marc de café. Pour produire des champignons, et là on peut rentrer dans le détail sur toute la production de champignons.
Et j'ai juste une question avant de te laisser partir et nous expliquer tout ça. Pourquoi les marcs des cafés et pas une autre substance? Évidemment, il y a beaucoup de marcs des cafés qui sont gaspillés parce qu'on l'utilise une fois pour faire le café et on les jette. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres matières qui peuvent aussi, comme tu dis, les champignons ils poussent partout, sur n'importe quelle matière organique? Pourquoi vous êtes allé strictement sur les marcs des cafés?
Alors, on fait des choses plutôt loufoques et donc il y a des choses pour lesquels c'est bien d'avoir une espèce de maîtrise. Ce qui est bien avec le marc de café, c'est qu'il est constant, on en a tous les jours. Et alors, et pour vous, de nouveau un autre exemple pourquoi le concept a été assez loin, c'est que le marc de café, il est pasteurisé, il passe dans la machine à café à l'eau bouillante.
Ah.
Et le monde du champignon, on y reviendra, c'est le monde de l'invisible. Il y a des champignons partout. C'est-à-dire que si on ne pasteurise pas, on fait de la nourriture de champignons, et c'est pas le pleurote qui vient, c'est
tous les champignons. Ouais,
exactement. Ouais, donc comme le trichoderma, c'est le vert que vous voyez sur vos citrons, il est bien plus fort que le pleurote, par exemple.
Ouais.
Et donc, nous, on se disait, mais c'est fabuleux, on va utiliser l'énergie de la machine à café une deuxième fois. On doit plus pasteuriser.
Qui pasteurise, c'est ça. Ouais.
On doit pas stériliser, pasteuriser, c'est-à-dire un petit peu moins, mais ça veut dire que on peut utiliser cette énergie une deuxième fois et économiser. C'est une économie financière,
mais pasteurisé, déjà pasteurisé.
Génial.
Et c'est pour ça qu'on va le chercher tous les jours. Donc le marc de café,
il faut qu'il soit frais.
Il faut qu'il soit frais, exactement, et pasteurisé. Et donc le marc de café, il est là tous les jours. Il est en quantité. Il est organique. Pour nous, c'était essentiel qu'il soit bio pour faire pousser du champignon bio. Bon, on pourrait parler des feuilles mortes, mais le problème, c'est que en été, il y en a moins. On pourrait parler de la drèche de brasserie, parce qu'on est à Bruxelles, évidemment. Brasseries...
Ça marcherait? On pourrait faire pousser du champignon
alors,
sur la...
de nouveau,
les restes de bière, du coup
C'est tout un process à développer. La drèche de brasserie, c'est moins régulier, c'est pas tous les jours. Mm-hmm. C'est des toutes grosses quantités, ça s'oxyde très vite, par exemple. Ah. Donc, on pourrait le faire, comme on pourrait faire d'autres champignons. Disons que marc de café et pleurotes, c'est l'exemple le plus facile.
Surtout, comme tu dis, des marc de café, on en a toute l'année. Mm-hmm. Et pourquoi les pleurotes en particulier, pas une autre variété de champignons?
Alors le pleurote, il y a 2 raisons. Le pleurote, la première chose, c'est que c'est un champignon qui est robuste et donc il se combat assez bien avec les
champignons qui sont présents.
Il faut se rendre compte qu'une champignonnière industrielle, c'est sas de sécurité, c'est pasteurisation, c'est... Nous, on est dans des caves, on reproduit la nature, on chauffe pas, on fait les choses naturellement et donc le pleurote est capable de faire ça.
D'accord.
Et l'autre chose, c'est que c'est un champignon qui est ultra apprécié. Dans la consommation, c'est deuxième ou troisième. Il est un peu en compétition avec le shiitake. Le premier, c'est l'agaric, le champignon de Paris.
D'accord. Et c'est un champion qui a une forte valeur ajoutée parce que les prix du kilo, il est un peu plus élevé que les champions de Paris, par exemple, non?
Oui, mais par exemple, le pleurote n'est pas et ça a été une vraie question, c'est qu'on trouve du pleurote beaucoup moins cher que celui de Permafungi. Maintenant, pour moi, c'est pas du tout le même produit. Nous, on a un pleurote qu'on cueille le matin, qu'on vend l'après-midi.
Ultra frais.
Qui est ultra frais.
Parce qu'il est produit en ville. Donc, c'est-à-dire que si tu le vends, on y reviendra, mais chez un maraîcher, enfin, chez un imprimeur local, il est très, très frais.
Ouais. Et souvent, on me dit, mais ça, c'est pas du pleurote. Le pleurote, le gros truc gélatineux sous cellophane. On a un petit champignon qui a du goût, etc. Ouais.
Ils sont très beaux. Voilà. Ils sont massifs, d'ailleurs.
Ouais. Et on le voit. Et ça, c'est valorisable.
Oui,
c'est-à-dire que
j'invite vraiment tous nos auditeurs à aller regarder toutes les photos qu'on va poster et des vidéos évidemment autour de l'épisode, parce que c'est très impressionnant.
Et encore une question avant de venir sur le processus de comment on fait pousser les champignons dans les mares des cafés. Est-ce que gustativement ça apporte quelque chose, le fait de pousser les pleurotes dans les mares des cafés?
Alors, le champignon, c'est un chimiste fabuleux. C'est-à-dire que, et c'est génial parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est que, au final, le marc de café est devenu du compost. On n'a plus de marc de café en fin de process. Mm-hmm. On a du compost. C'est ce que fait le champignon. Enfin, c'est un abus de langage. Le champignon, c'est le fruit. C'est ce que fait le mycélium, l'être vivant. C'est de transformer le marc de café en compost. Et en plus, il nous donne le fruit qui nous intéresse. Mais, le résultat final nous intéresse aussi. Et donc il voit pas de caféine, il voit pas de café. Donc il voit
juste les éléments chimiques en fait.
Voilà. Il voit carbone, hydrogène, oxygène, azote.
Du coup, l'aromatique du café passe pas du tout dans le produit fini, enfin dans les pleurotes.
Non, mais par contre le café a tous ces éléments et comme il est bio, n'a pas les éléments négatifs et donc il prend tout ce qu'il y a bien dans le café. Il a le vrai goût du pleurote.
Très nutritif.
Ouais. Et il a un goût différent parce qu'il est frais.
Et quand tu dis qu'en fait ça rend les cafés utilisables par la suite, ça veut dire que les marcs des cafés quand ils sortent des machines des cafés, on ne peut pas les utiliser par exemple avec les plantes à la maison. Il y a toujours les gens disent non, tu peux utiliser les marcs des cafés pour aider à faire pousser les plantes, mais en fait il n'est pas prêt parce qu'il y a encore trop d'éléments, c'est ça?
Mais en fait, moi je ne viens pas de Bruxelles et pour moi le marc de café c'est pas un déchet, c'est-à-dire que dans ma petite ville, le marc de café tu l'utilises pour déboucher les tuyaux, pour faire du peeling, on peut le mettre pour faire fuir les nuisibles dans les jardins.
Oui, c'est ça.
Ah ouais,
Le problème à Bruxelles, dans une ville comme Bruxelles, qui est 10 fois plus petite que Paris, c'est 15 000 tonnes par an. Donc c'est devenu hyper abondant. On met tout au même endroit, ça incite à détruire les sols, ou alors on va l'incinérer et ça consomme l'énergie. En fait, c'est ça le problème.
D'accord.
C'est que le marc de café, c'est naturel. Le problème, c'est que si on met 15 000 tonnes au même endroit, ça devient un vrai déchet.
On est d'accord.
Et c'est pas un engrais si on le met dans la terre. Je pose une question qui n'a un peu rien à voir, mais il faudrait qu'il y ait un travail d'un champignon pour qu'il devienne vraiment nutritif pour des plantes.
Alors,
ou ça peut déjà être de l'engrais si tu mets du marc de café à la base de certaines plantes en terre.
Ouais, moi j'adore écouter les gens qui font du compost. En fait, c'est vraiment un assemblage.
Il faut qu'il y ait d'autres choses.
Ouais, donc c'est de l'organique évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que c'est différents types d'organique. Et c'est la même chose. Si on vivait sur du marc de café, c'est absolument pas diversifié. Tandis que s'il y a du marc de café avec des feuilles mortes, avec du bois, travaillé par des lombrics et du mycélium, on y arrive.
Et du coup, si on revient sur les processus des productions des champignons par Permafungi, donc ça commence par récupérer les mares des cafés. Donc au début, c'était un vélo. Mmh. Et aujourd'hui, il y a un accord donc avec les pans quotidiens où les pans quotidiens vous ramènent ça. Une fois que vous recevez ces cafés-là, qu'est-ce qui se passe par la suite?
Alors, on arrive à la première étape qui s'appelle l'inoculation. Mmh. Et l'inoculation, c'est créer le substrat, donc créer la nourriture du champignon.
Ouais.
Donc on va prendre du café. Parce qu'il est trop compact, on va le mélanger avec de la paille.
D'accord.
Alors, la paille, c'est un déchet qui est moins gênant, surtout en ville. Donc, on réfléchit à des pistes qui viennent aussi plutôt de l'économie circulaire, comme des déchets de feuilles de choux, par exemple. Mmh. Mais bref.
Il faut un élément pour, tu dis, aérer. Pour aérer, là, c'est trop compact, sinon. Ouais. D'accord.
On va mélanger ce marc de café et la paille. Mmh. Et on va dire 50-50 ou 49-49 et on va mettre un tout petit peu de mycélium, cet être vivant qui va le coloniser et qui va transformer ce substrat en lui-même. Donc ça va devenir un sac de mycélium.
Donc ça c'est très important parce que donc le champignon, on n'y connaît rien. C'est pas une graine, c'est pas des spores, c'est le mycélium. C'est ça. C'est quoi exactement un mycélium? Alors le mycélium.
Le mycélium, c'est un être vivant. Donc disons que c'est
un être vivant.
Donc on connaît bien le monde animal, on en fait partie. Mm-hmm. On dit qu'on le connaît bien. Mm-hmm. On dit qu'on connaît bien le monde végétal. Si on connaît 50%, c'est beaucoup. Et puis il y a beaucoup d'autres types d'êtres vivants. Et le mycélium. Et un troisième groupe d'organismes.
C'est-à-dire, c'est ni végétal, ni animal.
Non.
Je ne savais pas, mais je pensais que c'est du végétal. champignon.
Et c'est génial.
On apprend plein de
choses. Ça me fait peur, là.
Ça me fait peur, c'est... Ouais, après, être vivant, oui, d'accord. Mais c'est pas un animal non plus, tu me rassures.
Là, les sacs sont noirs, mais si on ouvrait les sacs, c'est tout blanc. Et c'est cet être vivant. On se dit, bon, il n'a pas l'air très intelligent.
Il ne fait pas très peur.
Non, sauf que, par exemple, il est capable de coloniser, pas celui-là, mais il y a des mycéliums qui sont capables de coloniser les cerveaux des fourmis pour les déconnecter, les déplacer où ils ont envie et les manger.
T'es un peu flippant, là, quand même.
Alors, j'ai plus flippant.
Le mycélium va prendre le contrôle
du
monde.
Qui nous parlait d'un mycélium qui est énorme, qui fait presque la taille de la ville de Bruxelles? Ça existe?
Non, de la Belgique, j'ai entendu.
De la Belgique.
Mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'on le connaît moins. Ouais. L'être vivant le plus vieux sur Terre, c'est du mycélium. Il a 5000 ans. L'être le plus grand sur Terre, c'est du mycélium. C'est le même. Il est au Canada et il fait la taille d'un petit pays.
Pas ces choses-là.
Ouais. On sait qu'on a
l'être vivant le plus grand en surface, c'est le mycélium.
Moi, je pensais que c'était la baleine.
Je pensais à la baleine bleue dans le règne animal. Je réfléchissais dans ma tête, dans le végétal, il y a peut-être des trucs plus grands, mais non. Donc c'est le mycélium.
Ouais.
Ça valait le coup de faire un podcast avec toi juste pour cette information. C'est cadeau pour nos auditeurs.
Et pour vous, nous, on est aussi un assemblage d'êtres vivants. Donc, on a du mycélium en nous, dans notre estomac, par exemple.
Ah ouais?
Oui. Donc, il est partout.
Il est partout,
oui.
En fait.
Ici, il y a du mycélium, ou en tout cas, il y a des spores, c'est-à-dire la graine de mycélium, qui viennent du Japon, qui viennent il est présent partout.
Les spores, c'est sa graine. Donc, il y a quand même une graine.
Oui, exactement.
Mais, ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit là. En fait, il a quelle forme exactement, ce mycélium? Alors, c'est ça que j'arrive pas à imaginer.
J'aurais dû en prendre avec. On peut imaginer ça comme un réseau blanc. En fait, c'est très simple. Vous prenez une bêche, vous ouvrez dans votre jardin, vous enlevez un bout de terre et vous voyez des filaments blancs. Ouais. Ça, c'est du mycélium.
D'accord.
Et donc, imaginons que l'être vivant, c'est le pommier. Là, c'est le mycélium. Il fait un fruit, la pomme. Là, c'est le champignon. Et dans la pomme, il y a la graine, le pépin. Là, c'est le spore.
D'accord. OK.
Quels sont les autres intrants? Donc là, pour faire des plantes, il faut du marc de café. Pour des raisons mécaniques, tu as besoin de paille pour aérer. Et du mycélium, ça suffit. Il faut de l'eau, j'imagine.
Oui.
Tu as besoin d'autre chose.
Alors tu viens arroser, c'est ça? Non, l'eau, ça...
On arrive en étape 2. Donc la première étape, c'est inoculation. On fait le substrat et on met le mycélium.
OK.
Et la deuxième étape, c'est de laisser le mycélium.
Ça dure combien de temps, cette première étape?
Ça, on le fait le jour même.
Du jour, d'accord.
Pour que le jour
d'arrivage du marc de café, voilà, pour qu'il soit frais.
Ouais, maximum.
Il faut les pasteuriser une deuxième fois.
Alors, au départ, on le faisait pas. C'est-à-dire qu'on faisait entièrement confiance à la machine à café de nos partenaires.
Ouais, sauf ça a été manipulé après.
Non, parce que nous, on les a formés pour qu'ils aient une petite boîte hermétique qu'on va chercher tous les jours.
Ah, partenaires, les cafetiers, il faut qu'ils respectent un process pour pas contaminer, c'est ça le marc de café.
Oui, la première semaine, on trouve des petits pots de lait, on trouve des petites cuillères en bois. À un moment, on fait cette formation pour
éviter qu'il y ait d'autres champignons, d'autres germes, d'autres trucs qui vont se développer que tu voudrais pas dans tes sacs, ok?
Parce que c'est ça le danger, on le voit pas. Si on le fait mal, en troisième étape, au lieu d'avoir toutes les pleurotes qui sortent, on a un gros sac vert qui pue l'humidité. Et donc, on a
pas... c'est moins intéressant. Ouais,
c'est moins bon.
Ça se vend moins cher.
D'accord. Et donc, le café, il arrive, vous les pasteurisez d'abord, ensuite, vous les mélangez avec de la paille.
Et on le pasteurise depuis qu'on a... maintenant qu'on produit une tonne de champignons par mois, on prend une sécurité supplémentaire, c'est-à-dire qu'on complète la pasteurisation ici.
D'accord. Mm-hmm.
On arrive en étape 2. On doit laisser le mycélium grandir. Ouais. Il y a besoin de 4 choses. Du noir, ça coûte 0. D'accord. De l'eau, on a de l'eau de pluie. De l'oxygène, c'est comme l'humain. Il prend l'oxygène, il rejette du CO2. Il y en a partout. Et ça rejette pas grand chose.
Ouais.
Et la dernière chose, c'est de la chaleur.
Ouais.
Et dans le champignonnaire classique, normalement, on chauffe, on mesure tout ça. Et nous, même chose. Bon, on a commencé à 6, on a mis 1000 euros chacun. On avait 6000 euros. Donc, ça coûtait cher. Mais on a fait des petites chambres et on s'est rendu compte qu'en fait, dans la nature, il produit sa chaleur lui-même. En mangeant le marc de café, il crée sa chaleur.
C'est ce qu'on a découvert tout à l'heure dans les câbles. Elles étaient à 14 degrés. Enfin, la pièce de cette étape numéro 2, elle est à 14 degrés. Alors que là où on est en train d'enregistrer, il y a de la vapeur. Je pense qu'on n'est pas à 14 degrés. Donc ça, c'est le champignon lui-même qui produit sa chaleur.
Exactement.
Donc toi, t'as pas besoin de le chauffer.
Alors, si on chauffe, on va avoir un meilleur rendement. Et c'est toujours cette question. On investit beaucoup pour pouvoir faire. Et nous, on est parti du principe inverse. On va mettre très peu d'investissement et on va voir ce qui sort.
L'idée, c'est d'avoir peu d'intrants énergétiques.
Ouais, c'est justement les modèles des permafonds guidés les départs, en fait, d'avoir cette économie circulaire. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est un produit qui est autosuffisant, autosuffisant de lui-même, en fait. Il vient générer tout ce dont il a besoin pour pouvoir grandir et évoluer. Et ça, c'est très, très fort.
Mm.
Et ça dure combien de temps, cette étape?
Deuxième étape, elle prend 15 jours.
D'accord.
2 semaines, oui.
Mais là, pour l'instant, on va pas de pleurotes pour l'instant. Tout se passe à l'intérieur de Marc des Cafés, quoi.
Exactement. Je veux dire, c'est de nouveau, c'est le pommier au mois de février. Il a pas besoin de faire un fruit spécialement. Il vit sa vie. Il
consomme les nutriments. Il est dans des espèces de sacs suspendus. Là, il y en a qui sont derrière toi. Et il va grandir dedans.
Si tout se passe bien, s'il n'y a pas eu de contamination, et c'est le gros risque, donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que ce sac va devenir tout blanc.
C'est-à-dire... Il va se couvrir, c'est ça de... C'est quoi ce blanc d'ailleurs? Parce que c'est déjà des petites pleurotes, c'est quoi?
Non, le blanc c'est le mycélium, c'est lui.
Ah, c'est lui qui sort, qui a grandi, d'accord?
Ouais, c'est lui qui a grandi, exactement, c'est lui qui a tout colonisé, il est devenu immense en fait, pas d'accord. Immense. Moins grand que celui du Canada, mais...
Et il est enfermé dans cette salle aussi pour donc éviter les risques de contamination avec d'autres champions qui sont un peu partout, et dès qu'il arrive à maturité, c'est mycélium. Vous les sortez de cette salle-là. Parce que là, il n'a plus le risque de se faire contaminer parce qu'il est déjà trop puissant, en fait. C'est
exactement.
Ça
c'est-à-dire que là, il n'y a plus rien à manger pour les autres champignons. Donc,
d'accord,
il
faut tout manger, quoi.
Nous, on peut être à côté. Et même si on se lave les mains, on a des millions de bactéries de spore. Ouais. Elles ne peuvent plus attaquer ça.
Et qu'est-ce qui se passe ensuite entre le sac donc, qui est recouvert de mycélium, donc qui a été finalement envahi par la totalité de mycélium, et les pleurotes qui commencent à pousser dessus? Jack, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, les pleurotes, c'est le fruit du mycélium. Ouais. Ça, c'est un truc pareil. Je ne voyais pas les choses comme ça.
Ouais, parce que c'est ce qui sort dans la forêt. On connaît finalement mieux le fruit. C'est rare, on connaît mieux le fruit que l'être vivant. Et alors, on arrive en étape 3, qui est ici, l'étape de fructification. D'accord. Et ce qui se passe,
c'est bien que... son nom, du coup.
Ouais. Ouais. Et du coup, il a deux chocs. Le premier choc, c'est qu'il a tout mangé. Donc, il a faim. Et le deuxième choc, c'est que tout d'un coup, il fait plus froid. Il y a des fenêtres derrière qu'on a couvertes, mais on est contre l'extérieur, ouais. Ici.
D'accord.
Et donc, il s'inquiète. Et donc, il se dit, il faut que je survive. Et donc, il produit un fruit qui est le pleurote. Et ça, c'est assez magique. Le premier jour, on a un bébé pleurote, ça s'appelle un primordia, directement qui sort, et tous les jours, il double de volume. Et en 5 jours, on a...
Ça prend que 5 jours, parce que là, moi, je suis impressionné par la taille des pleurotes qui sont derrière toi. Ça prend que 5 jours, oui, pour émerger. Et le mycélium, là, on ne le voit plus du tout. Le blanc a disparu de la surface du sac.
Non, en fait, il y a deux types de sacs. Il y a des sacs noirs et des sacs transparents.
Ouais.
Et au départ, on n'avait que des sacs transparents. Le problème, c'est que s'il y a un ray de lumière, il va plutôt grandir en fonction... Et donc, après, nous, on faisait des trous pour que les pleurotes sortent. Mm-hmm. Et il devait encore parcourir la distance où il s'était renforcé jusqu'à la distance du trou.
D'accord.
Et un jour, on s'est dit, mais si on met des sacs noirs, ce sera uniforme. Et c'est dingue, mais je crois qu'on a augmenté la production de 10% juste en faisant ça. Mais on avait un nouveau problème, c'est qu'on ne voyait pas s'il y avait une contamination, s'il y avait des taches vertes.
Ça avait marché, ouais. Donc, sonder, c'est ça?
Non, et du coup, on garde un transparent. Si vous regardez, ils sont tous noirs. Et il y a toujours
un transparent, ouais, qui vous indique un espion. Que le mycélium
a... Je pensais que vous n'aviez pas assez de sacs noirs, non.
Et quand tu vois sur le sac témoin que le mycélium a colonisé la totalité, c'est-à-dire que tu fais l'hypothèse que tous sont au même niveau, et là, tu fais des petits trous dans le sac pour que les pleurotes sortent, c'est ça?
Exactement. Donc, il y a des mini trous pour que le mycélium respire. Ça, c'est, les sacs sont faits comme ça. Et puis, quand il arrive en troisième étape, on fait un trou pour que le pleurote puisse sortir.
Et les cueillettes, comment ça se passe? Combien de temps ça met pour qu'ils arrivent à la maturité, que tu puisses les cueillir? Et combien des cueillettes tu fais avec les mêmes mycéliums?
Alors, quand on arrive, donc après 5 jours, il a doublé de volume, et quand le chapeau commence à retourner vers le bas.
Doublé de volume.
Chaque jour, il double.
Ah, il double, ouais. C'est pour ça qu'il... Donc, c'est exponentiel, là. Ouais, ça va hyper
vite. C'est fabuleux. Ouais, si vous revenez demain, les petits, vous les imaginez deux fois plus gros.
Mais même là, derrière toi, j'en vois qu'ils grossissent à vue d'œil.
Vous me prévenez si je dois bouger.
Surtout que tu me fais un peu flipper ton histoire de mycélium, là.
Non, mais ça, c'est par contre, c'est, je sais que par exemple, on parle de mycélium notamment dans, et c'est ce qu'on fait à la fin dans le matériau, c'est que deux mycéliums, parfois on les confond, et nous, il y a des architectes qui disent, attends, nous on connaît la meilleure hule, le champignon, on ne veut pas le voir,
ouais.
Mais on parle, c'est comme si on parlait de je sais pas moi, la fourmi et du guépard. Ouais. C'est des choses qui... Le mycélium de pleurote, il a des caractéristiques qui sont tout à fait... je dirais spécifique à lui, et qu'on contamine pas l'humain, il fait des pleurotes, quoi.
D'accord.
Et du coup, j'ai...
La cueillette, en fait. Donc, comment ça se passe?
La cueillette, une fois que le chapeau commence à retourner vers le bas,
ouais.
On arrive le matin et la chambre est remplie de champignons. Oui. C'est comme une forêt remplie de champignons. Et donc, on va les récolter à la main.
D'accord.
On va couper les pieds. Avec ces pieds, on fait des soupes. Ouais. Et on vend les chapeaux.
D'accord.
Le rendement d'un sac, c'est 20%. Donc, ces sacs font 5 kilos. On va avoir 1 kilo de pleurotes en moyenne qui sortent.
Ouais.
En plusieurs récoltes. Donc, nous, on fait deux récoltes ici.
Un sac permet de faire deux récoltes, c'est ça?
En fait, il pourrait faire même 6 à 7 récoltes. Mais la première récolte, c'est 80%.
Ouais.
Puis, c'est 15. Et puis, en fait, à la fin, la plupart de ce compost va dans une ferme et eux sont contents de récupérer encore des pleurotes pour les vendre dans leur magasin.
D'accord. Sympa. Ouais, ben nous, si c'était à la maison, on aurait peut-être à faire 5, 6, 7, mais vous, dans, avec la démarche un peu commerciale des ventes et pleurotes, ça n'a pas l'essence économique de laisser ça.
Bah, c'est toujours la question de la productivité de l'espace.
Oui, voilà.
Surtout qu'on est à Bruxelles.
Et vous avez une abondance des mares de café, de toute façon, il faut les récupérer.
C'est ça, c'est qu'il y a une mare de café qui arrive, qui pousse.
Voilà. Donc,
Et vu que vous êtes donc un acteur engagé dans l'économie circulaire, vous avez du coup dans ce process vos propres déchets. Qu'est-ce que vous en faites? Genre le mar, tu nous as dit, hein, le mar qui est. Bon, moins riche après les deux récoltes, il part en compost, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres déchets produits par la production? Qu'est-ce que vous en faites?
Alors, donc, on a le marc de café, la paille, on a le champignon, et le champignon transforme ce substrat en compost. Donc, c'est un compost de champignons. Mmh. La première idée qu'on a eue, c'est de collaborer avec une ferme, parce qu'il y a quand même 5 tonnes qui sortent par mois. Mmh. Donc, eux le récupèrent pour un amendement sur le sol. Donc, on a toujours essayé de le valoriser, mais c'était compliqué. La seule valorisation qu'on a vraiment, je dirais de masse, c'est que la ferme récupère tout gratuitement.
D'accord.
Et puis, on s'est dit, mais si le marc de café, on l'a pas vu comme un déchet, le compost, ça n'en est pas un non plus. Et donc, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre culture sous base de ce compost. Et là, on a eu l'idée de faire des chicons, donc des endives pleines terre, produites dans les caves. C'était là derrière vous.
Ouais.
On a fait ça pendant 3 ans. On produisait jusqu'à 5 tonnes d'endives par mois. Ouais, et c'est quelque chose qu'on a arrêté.
Et parce que les endives ont besoin d'un substrat moins riche, donc elles peuvent évoluer sur la deuxième étape du marc de café, c'est ça?
Mais je dirais même que le marc de café, elle n'arrive pas à le transformer. Le travail du champignon sert à ce qu'il soit plus assimilable.
Il a encore de la richesse nutritive.
Il est plus proche de l'humus que le marc de café.
De la terre. Donc, on peut faire cultiver des chicons, comme tu dis, des endives pour nous.
Ouais.
D'accord, très bien. Très
clair. C'est ce qui se passe dans notre sol, c'est que l'arbre, il pousse pas sur la feuille. Il y a le mycélium, les lombriques qui l'ont transformé. Et puis, lui, prend l'humus. Ben, nous, c'est la même chose. Le champignon transformait le marc de café en quelque chose d'assimilable qui servait à faire grandir le chicon.
Et ça, vous avez dû arrêter. Pourquoi alors?
Alors, il y a deux raisons. Je dirais, il y a une raison qui est que là on est dans le champignon, un monde propre, un monde où on fait attention à toutes les contaminations. Mmh. Et le chicon, ça pousse à partir de la chicorée qui vient en direct de la ferme avec le terreau. Donc c'est deux. Nous, on voyait une complémentarité, une symbiose. Mmh. Dans la nature, ça peut se faire. Et nous, on a besoin d'une certaine stabilité. C'était pas si simple. Surtout que le travail du chicon est moins intéressant. C'est enlever des feuilles. C'est vraiment un travail qui est moins valorisant.
D'accord.
Ça, c'est la raison, je dirais, qu'on trouve chouette. La raison qu'on trouve moins chouette, c'est que on devait le valoriser à 5 euros. Et il était plein de terre.
Économiquement, pour vous y retrouver, pour couvrir vos coûts de revient. Ouais.
Ouais. Et on arrivait à valoriser une grosse partie chez les spécialistes, les restaurants qui disaient, il a un goût incroyable, il est plein de terre, il est plein. Mais visuellement, ça se voyait pas. Mmh. Et donc, il y avait une partie qui était en concurrence avec le chicon qui est
en production classique.
En hydroponique. Et qui est dans l'eau, qui a pas de goût, mais qui est moins cher.
D'accord. Donc, ça marche moins. Contrairement aux pleurotes.
Tu fais référence à 5 tonnes d'endives que tu produisais à l'époque. Et pleurotes, aujourd'hui, vous faites combien ici?
Une tonne. Oui.
Par mois.
Une tonne par mois. Et en fait, l'endive, c'est beaucoup plus intensif. Ça pousse. Mais on fait 5 tonnes de déchets pour 20% de champignons, c'est-à-dire une tonne.
Et combien des cafés vous récupérez en tout par mois? C'est quelle est la ratio entre les pleurades produites et produits et les cafés?
Alors, c'est 2 tonnes et demie de marc de café, 2 tonnes et demie de paille. Ça veut dire 5 tonnes de substrat.
D'accord.
Qui donne une tonne de.
Une tonne de pleurote, ouais. Quoi. Et tout ça, après, est utilisé pour, comme un grès.
Alors, on a un nouveau projet qui nous fait assez rêver, sur lequel on travaille depuis 2016. Mm-hmm. C'est de transformer le champost dans un matériau biodégradable qui peut remplacer le plastique et le polystyrène.
Ah, c'est les fameux abat-jours qu'on a vus tout à l'heure.
Ouais, c'était notre première application. Alors, tout le monde nous a dit faire une forme. Ça va pas être possible. Et aujourd'hui, tout le monde nous dit, votre design, il est un peu dégueu. Et en fait, c'est génial. Ça veut dire qu'on nous parle plus de la forme.
On est d'accord.
Et donc, on avance. Oui.
Ouais, super, ça. Et ça, on va retrouver dans la boutique du pain quotidien. On va en faire des photos.
Les premiers qu'on a vendus, ils sont à l'étage du pain quotidien. Ouais. Et ce que moi, j'aime bien voir, c'est qu'il vieillit. C'est comme, c'est organique. Donc, on voit des taches comme s'il avait été au soleil ou, moi, je trouve ça très beau.
Il va pas se dégrader dans le temps. Ça reste une matière. C'est un plastique naturel. Enfin, je sais pas comment dire ça.
Oui,
ça reste dans le temps.
Mais alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que au lieu de se dire de faire toutes les analyses, nous on en a fait un et puis on voit comment il évolue. Mmh. Alors, est-ce que On sait que c'est biodégradable. Si on le met dans la terre, on l'a testé. Bon, de un, tout est biologique chez nous, donc c'est...
Ça, c'est, du coup, c'est le mycélium, ça.
C'est le mycélium. En fait, c'est du mycélium.
Il est mort, là. Si tu le mets dans la terre,
on l'a séché. On l'a séché, donc il est mort. Mais par contre, si on le met dans un endroit où il n'y a pas d'humidité,
il bouge plus.
Il est séché. Oui, exactement. Par contre, si on voit qu'il est trop biodégradable, on peut en faire du packaging, par exemple.
D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de la rencontre, donc on a évoqué donc les pains quotidiens à l'instant, est-ce que tu peux nous parler de la rencontre avec les pains quotidiens, comment ça a eu lieu, qui allait chercher qui, depuis quand vous collaborez, on voulait comprendre un peu plus en détail cette collaboration.
Oui, alors nous on a commencé en 2014.
Ouais, ça fait longtemps.
L'idée en 2013, mais je dirais qu'on a la coopérative en février 2014. Mmh. Et on allait chercher du marc de café à un bout de Bruxelles, et puis on allait vendre des champignons à l'autre bout de Bruxelles. Et donc, le pain quotidien n'est pas notre premier partenaire. Mais par contre, c'est le premier qui a pris le marc de café et acheté les champignons, qui faisait la boucle entière chez lui.
Super.
Et comme quoi les choses sont bien faites, nous, on est dans les caves d'un ancien bâtiment industriel, mais qui était rénové, et où il y a toute une activité qui se développe, et le pain quotidien a créé un restaurant ici, mais aussi mis son siège. Et donc...
Ça, c'était l'hasard de la vie.
C'est le hasard. Moi, je me demandais si vous étiez installé après, justement, pour vous rapprocher du pain quotidien. Non, vous y étiez déjà. D'accord. D'accord.
Et aujourd'hui, comment ça fonctionne? Parce qu'au départ, tu disais que vous alliez chercher ça à vélo. Et ensuite, tu l'as fait référence qu'aujourd'hui, avec les pains quotidiens, ils vous ramènent les cafés. Tu peux nous expliquer aussi la logistique, comment ça fonctionne?
C'est ce qu'on appelle la logistique inverse. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéressait, c'était de trouver en même temps comment on a un impact. Le vélo a un impact social, un impact économique et un impact environnemental. Et par contre, le pain quotidien, il a des restaurants partout dans le monde. Mais nous, on recycle le marc de café de Belgique partout en Belgique. C'était plus possible. Ce qu'on a appris, c'est qu'il allait livrer du pain frais tous les matins.
Ouais.
Et que le camion revenait vide.
D'accord.
Et donc là, il récupère le marc de café et il nous le ramène.
Donc, dans chaque boutique pain quotidien, il dépose la quantité des pains et
il ramène le marc de café chez nous.
Et il fait ça systématiquement et après, il dépose tout ici, quoi.
Oui.
Et c'est bien parce que ce que tu disais tout à l'heure dans le modèle économique, ce qui vous coûtait le plus cher, c'est la ramasse. C'est la récolte de, la ramasse du marc de café.
Oui,
donc, c'est un bon partenariat à ce niveau-là, déjà.
Oui, c'est à plein de niveaux. Mais ce que je veux dire, c'est que, et c'est ça qui est chouette, c'est que les rêves qui paraissaient fous, au final, on ne sait pas ce qu'ils vont donner. Il y en a plein qui sont arrêtés. C'était les mauvais.
Ouais.
Mais il y en a des bons. Et
là, c'est un bon. Ouais,
là, c'est un bon. Mais je veux dire, si on parle à un grand groupe qui reçoit sa matière de première gratuite chez lui tous les jours, c'est hyper innovant.
C'est clair.
Donc, nous, on a une matière première qui arrive.
Et aujourd'hui, donc, les pains quotidiens achètent les pleurotes ou une partie des pleurotes pour utiliser dans ses recettes.
Exactement.
Et ça, c'est la dernière étape de la collaboration qui est venue un peu plus tard, en fait.
Alors, eux ont commencé dès le départ.
Dès le départ, acheter les pleurotes.
Donc, le pain quotidien, moi, je me souviens très bien, quand on s'est rencontrés, ils ont dit, on va faire le partenariat en entier. Nous, on existait depuis 3 ans. On allait chercher du marc de café chez un autre partenaire qui existe toujours. On allait livrer des champignons dans les magasins bio et les restaurants. Mais le pain quotidien nous a fait accélérer ça très fort. Parce que il nous a fait doubler la production grâce au marc de café qu'il a porté et aux champignons qu'il achetait.
Super.
Donc il l'a mis dans ses recettes. Et là, l'actualité dont on parle en particulier aujourd'hui, c'est la fameuse création de ce vegan bun. Donc c'est vraiment, ils ont créé une recette avec vos pleurotes.
Oui. D'accord. Exactement. Donc
qui a eu l'idée, c'est ça vient de vous, ça vient d'eux?
Alors les recettes, c'est nous on fait les champignons, on fait l'amont.
Est-ce qu'on pourrait goûter ces burgers là, parce que ça me donne très envie.
Je pense que c'est ce qu'on va aller faire. On va aller retrouver Alain et tous les quatre, on va goûter ce fameux vegan bun depuis le temps qu'on en parle.
Ça te va, Julien? On va goûter les buns.
Ouais, super.
C'est parti.
Allez.
Le pain quotidien.
Alors messieurs, on a passé pas mal de temps avec vous, c'était très cool, on en sait désormais beaucoup plus sur vos motivations et les raisons de cette collaboration. Maintenant, on veut en savoir plus sur ce fameux vegan bun, on en parle depuis tout à l'heure, et surtout le goûter. Il a l'air assez appétissant en tout cas, mais on a évidemment encore quelques questions avant ça. Alors déjà, qui est-ce qui a conçu la recette? C'est plutôt du côté du pain quotidien, j'imagine?
Oui, bon, nous, au départ, il y avait la matière première. Et donc, le business de la bouffe, je dirais la restauration, est en permanente évolution. Donc, on mange différemment maintenant qu'avant, etc. Et donc, je dirais, pain quotidien, c'est quand même un concept omnivore. Parce que, bon, je dirais à la fois, Il faut des choses healthy, des choses gourmandes. Bon, un peu moins de viande, mais bon, un très bon jambon sans nitrite.
On dit pas non, ouais.
Voilà. Et donc, ici, on a tous les trois mois, on a nos cartes qui changent. On essaie de faire des produits de saison. Mmh. Et puis, en hiver, l'avantage des champignons, ça pousse. Et on s'est dit, OK, on a besoin d'une offre un peu vegan pour ce trimestre, les champignons. Et puis, à un moment, je sais pas, il y a quelqu'un qui est sorti, mais pourquoi on fait pas un vegan pulled pork? Ah bon, désolé pour l'anglais. Uh-huh. Ici, à Bruxelles, on est quand même...
Ah, bien sûr.
On est
ville internationale.
On a un pays fédéral avec des... On a des frontières linguistiques en Belgique, donc parfois...
Vous avez plusieurs langues.
L'anglais, c'est un peu plus neutre. Et voilà, de fil en aiguille, on fait pas de burger, donc on est, à un moment, on s'est dit quelque chose de facile à manger. En plus, vu la situation de la restauration maintenant, il y a quand même beaucoup de click and collect, de delivery, etc. Donc, il fallait des choses, faciles à manger, portables.
Ouais.
Et donc, voilà, on est arrivé avec vegan bun, vegan pulled pork.
Et la recette, c'est quoi? C'est les pleurotes qui sont revenus d'un peu...
Oui, alors, ce qui est très intéressant, parce que moi, je suis, je dirais, végétarien à temps partiel.
Flexitarien, comme on dit.
Et ce qui est très, très intéressant, bon, surtout, mon vrai métier, je suis cuisinier, c'est quand on fait abstraction de la viande, du poisson, du fromage, etc., il faut quand même que ce soit des choses goûteuses. Mmh. Et donc, un plat, c'est toujours la texture, etc. Alors, ce qui est génial avec les champignons, c'est qu'on a de la mâche, donc on peut reconnaître un petit peu, je dirais, comme la fibre de la viande. Mmh. Bon, en plus, le champignon est quand même très riche en protéines. Mmh. Et voilà, de fil en aiguille, alors bon, on a la texture. À un moment, c'est comment, au niveau, je dirais, de la saveur, on fait quelque chose qui excite un peu les papilles. Mmh. Et alors bon, il y a dans la bouffe vegan, parfois, par exemple, employer un peu de thé fumé, un Lamsang Souchong, ou du pimienton espagnol, le piment fumé en poudre.
Pour assaisonner.
Voilà, donc dès qu'on met un petit goût de fumée directement,
ça repense à la crème.
Ça clique, côté, je dirais, reptilien de notre cerveau il y a 15 000 ans.
Ça rappelle la viande, c'est pour rappeler la viande.
Quand on faisait très peu de cuisson à la vapeur, c'était cru ou grillé. Mmh. Voilà, donc...
Donc là, les pleurotes dans ce vegan bun, elles ont vraiment comme vocation de remplacer la viande. Elles ont été travaillées, comme tu le dis, avec une recette qui doit rappeler
au porc.
Alors aussi, il y a une chose importante, c'est que ici, déjà, les pleurotes poussent sur le mar de café recyclé, qui est collecté, je dirais, tous les jours pour des raisons sanitaires, parce que si on le prend une fois par semaine, ça commence à moisir, etc.
Bien sûr.
Donc aussi, il faut une matière première, je dirais.
Julien nous l'a bien expliqué tout à l'heure.
Propre. Ouais. Ouais. Et puis aussi, on s'aperçoit, bon, Julien qui vend ses produits à la restauration, au magasin bio, etc. Il s'est aperçu que dans les magasins bio, ils veulent juste le champignon, mais sans le pied. Mmh. Et le pied du champignon, c'est où il y a le bouquet de champignons qui démarre. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est très ferme. Mm-hmm. Hein, quand on le coupe, on a c'est moins mou que la tête du champignon.
Ouais.
Et donc là, on a fait dans la recette, un mélange
de tout ça.
Ah oui, un mélange des pieds, etc.
C'est qui vous permet de rien gaspiller.
C'est ça. Parce que aussi, si c'est pour faire du circulaire et puis qu'il y a la moitié du champignon
qui part à la poubelle,
qui retourne dans le compost ou ailleurs. Donc voilà.
On est d'accord.
Et justement, donc au-delà du goût, là, on va le goûter tout à l'heure. On a compris dans cet échange avec toi, Alain, et aussi avec toi, Julien, que ce vegan bun, il a plein de vertus. Comment vous les résumeriez, écologiques, nutritionnels? Enfin, quelles sont les vertus au-delà de son goût?
Déjà, si je peux dire, il y a un cahier des charges interne chez nous, c'est que quand on voulait vraiment que ce soit vegan et bio. Mmh. Déjà quand on fait dans le bio, on peut pas, il y a pas les arômes artificiels, les petites poudres magiques, etc. Bon, parce que surtout on est dans un monde maintenant où tout le vegan ça explose, mais c'est des faux burgers, du faux porc fait avec des protéines de pois texturées, des produits très transformés,
c'est vrai.
Pas du tout bio, ou parfois il y a aussi des petites poudres magiques. Donc ici, en restant bio, ça veut dire que on ouvre le placard comme à la maison et on travaille avec des vrais ingrédients, de l'huile d'olive, de l'ail, etc. Et donc à un moment on vient avec un profil de goût. Donc au niveau du pain, on s'est fait un petit pain légèrement brioché, mais où on peut pas mettre d'œuf à cause du côté vegan.
Ouais.
Pas de beurre. Donc là ici, on a mis un petit peu d'huile de colza bio, parce que si on fait un pain, je dirais traditionnel sans matière grasse, parfois c'est
trop sec.
Ça peut être un peu dur aussi.
Dur, hein. Ouais.
Voilà. Donc la petite goutte d'huile, pas beaucoup. Il y a 5-6%. Il y a un côté un peu brioché ou bon.
Qui donne cette texture complémentaire, oui, avec les champignons,
voilà,
okay. Et qui fait la mâche.
Voilà, on a fait un petit ragoût de champignons, hein, qui est fait à l'avance. Et même, je trouve que quand il est réchauffé 2-3 jours plus tard, il est encore meilleur parce que ça, tous les saveurs se sont mariées, etc. Hein, il s'est affiné un peu comme un fromage. Donc le pain est fait au jour le jour, tout frais. On a mis quelques graines de sésame par-dessus parce que à la cuisson ça donne un petit côté noisette, ça craque sous la dent. À l'intérieur, dessous on met un bon morceau de salade romaine, hein, avec le crunchy. Bon, je dirais la seule petite faute que l'on a faite, c'est qu'il y a une petite tranche de tomate en hiver. Alors le truc, c'est que c'est des tomates bio belges qui grandissent en des serres un peu chauffées, mi-solaire, machin. Bon, mais le truc, c'est qu'on est perfectly imperfect.
Ouais.
Ok. Voilà. Et puis aussi,
ça, si tu la mettais pas, ça.
Alors le truc, c'est
elle
que
aurait vraiment manqué, j'imagine.
On aurait dû le faire, à mon avis, idéalement au mois de juin. Hein. Et puis bon, c'est l'hiver, en plus confinement, machin. C'est on vit quand même des périodes difficiles. Et puis on a essayé sans tomate, et puis
sans tomate ça marche
à la dégustation, je dirais non, ça il mange la tomate, quoi.
Donc, et là il y a pas d'autres fruits, il y a pas d'autres légumes fruits qui pourraient fonctionner.
Une petite question, en fait, nous avons nos auditeurs qui s'intéressent beaucoup à la dimension écologique, et là les projets il est super. Est-ce que vous êtes amusé à mesurer l'impact carbone de ces bannes, en fait, parce que c'est du marc des cafés qui a récupéré le pleurote qui pousse dans ces marc des cafés, et tout ça dans un espace très proche, parce qu'en fait les pleurotes sont poussées juste au sous-sol du restaurant. Est-ce que vous êtes amusé à mesurer cet impact-là?
Bon, on l'a pas mesuré, mais déjà en Belgique on a du vent, hein, c'est un pays plat,
au doigt mouillé.
Le doigt mouillé, bon, je pense qu'on est pas mal. Et puis, moi je suis à la fois, comme je disais, je suis végétarien ou vegan à temps partiel, et bon, je suis aussi très bon, je fais un petit peu d'agriculture à la maison. Hein, j'ai quand même des céréales, des choses. Et par exemple, je crois que le futur de l'agriculture, c'est la permaculture. Donc, c'est-à-dire les non-labours. Et je dirais, par exemple, si on fait une céréale en non-labour, on capture du CO2. Par exemple, si la paille reste dans le champ, bon, si la paille va pour nourrir les vaches, bon, il y a le méthane, ça. Mais si on laisse la paille dans le champ, et pendant 10 ans, on laboure plus. Donc, on emprisonne du carbone dans le sol. Et je dirais que sur certaines céréales, on peut avoir un impact carbone négatif. Hein, donc, d'habitude, c'est combien j'en consomme. Et là, ici, bon, alors, je vais pas dire qu'on va aller revendre des crédits carbone à Total, etc. Mais donc, et alors, il y a toujours aussi le problème, c'est que si on veut sauver la planète, bon, on est sur les starting blocks, on dit voilà, dans 3 ans on est prêt. À un moment, il faut démarrer tout de suite, hein, parce que sans ça, bon, le soufflet, c'est toutes ces petites choses. Et bon, ça va pas être parfait, mais on améliore. Et puis dans 5 ans, avec tous des petits à petits pas, on arrive où c'est un but quand même non négligeable.
Et c'est un petit pas qui apporte énormément d'innovation, en fait. C'est qu'on change toutes les habitudes de production et de consommation. Le marc de café, on utilise 3% du café. Là, on va l'utiliser à 100%. Normalement, les champignons, la grosse majorité, ils viennent de l'étranger. Ils sont récoltés, ils poussent ici en dessous.
Localement, voilà.
On est dans l'ultra local. C'est-à-dire que le déchet est transformé sur place. manger sur place. Et je dirais que ça, c'est toute l'âme aussi de, ou l'envie de permafungi, c'est par un exemple concret, montrer une façon de faire qui est totalement différente.
C'est clair. Ça, on a hâte d'égoutter ces BAM. On avait peut-être une dernière question qu'on a peut-être moins évoquée quand on était avec toi, Julien. C'est la partie des créations d'emplois. En fait, l'impact social aussi, parce que c'est une partie importante de la démarche de Permafungi. Est-ce que tu peux nous parler aussi de cette partie-là? Parce que ces burgers, finalement, ils contribuent aussi à avoir un impact social positif.
Et je vais reprendre l'exemple de la permaculture. Nous, on se base beaucoup là-dessus et parfois dans la permaculture, on oublie la notion humaine et l'humain fait clairement partie de la permaculture.
Bien sûr.
Et notre idée, c'est ça, c'est d'arriver à trouver cette symbiose entre les déchets qui n'en sont plus, entre le produit final, mais aussi de créer un nouveau savoir-faire à Bruxelles, c'est-à-dire que le métier de voir quand le champignon est bon à être récolté, de le faire grandir, etc., c'est peu valorisé, et en particulier en ville. Et c'est d'arriver à amener ça, en particulier avec des gens qui sont peu valorisés sur le marché de l'emploi et qui, chez nous, sont considérés comme les meilleurs professionnels.
Top ça. J'ai hâte de goûter ces burgers.
Il a, il a des vertus nutritionnelles, écologiques, sociales. Puis maintenant, aussi, est-ce qu'il est bon? Tu veux rajouter quelque chose?
Juste une chose, parce que
surtout qu'on l'attend, il va arriver.
Dans ma petite carrière de cuisinier, des champignons, j'en ai vu de tout, depuis des truffes très très chères, etc. Mais la qualité des champignons est incroyable parce que on les reçoit, ils sont au frais du jour, et puis ils sont pas gorgés d'eau. Parfois il y a des champignons dans des barquettes, on a l'impression qu'ils ont trempé dans l'eau pour à nous vendre de l'eau. Et ici ils sont fermes, ils sont très peu mouillés, et donc au niveau de la concentration des goûts, c'est formidable. C'est comme quand on a une petite fraise de 10 grammes ou une fraise espagnole en hiver de 80 grammes, il y a le même goût dans 10 grammes que dans 80. Donc il y a vraiment
très concentré.
Oui, c'est ça, c'est l'extrait sec, je dirais, là.
Oui, nous, ceux qui aiment cuisiner à la maison, c'est mon cas. Quand on a l'habitude d'acheter des champignons, on voit quand on les met dans une poêle que ça perd beaucoup de matière, ça perd beaucoup d'eau. Et quand tu achètes un champignon des meilleures qualités, tout de suite, les résultats, ils n'est pas les mêmes. Les BAM, ils arrivent.
Ils sont en train d'arriver en live pour expliquer à nos auditeurs qu'on ne voit pas l'image.
Déjà, c'est ce que tu expliquais, en fait, les sésames, et on va avoir des photos qu'on va mettre sur les réseaux sociaux, mais les sésames, tout de suite, ça apporte ces côtés assez jolis et qui donnent la croustillance.
Et puis, en plus, comme c'est du sésame bio, il y a du sésame blanc et sésame noir, mais le sésame blanc, c'est du sésame complet. Parce que si on voit les graines de sésame chez McDo, Burger King, c'est des graines très très blanches qui ont été décortiquées.
D'accord.
Ici même le sésame blanc, c'est du sésame complet. Et le sésame noir aussi est complet. Donc c'est
On va les goûter, Philibert.
On le goûte. Je viens de couper en deux.
Je te laisse goûter comme ça. J'ai continué la discussion.
On va perdre les auditeurs, mais
Mais déjà l'arôme, on les sent tout de suite. Ça sent vraiment très fort les champignons. Alors raconte-moi, Philibert, qu'est-ce que tu ressens? La texture, les goûts.
C'est très bon déjà. Ça va être simple.
Moi, j'arrive même à écouter quand vous.
Mais je fais des bruits comme ça. Les gens imaginent vraiment qu'on est en train de goûter. c'est vrai. Déjà, le bun, la cuisson du bun, très bien. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu cette texture de viande et un goût fumé. Alors ça, tu le dis, le goût fumé, ça vient des piments, ça vient.
Alors il y a un petit peu de miso. Bon, ça c'est un peu le côté umami. Et puis il y a le piment fumé, le pimiento espagnol.
Ouais.
Bon, alors ici, au niveau du piquant, moi je suis, je voyage beaucoup. J'aime le piquant. Bon, là on l'a fait, je dirais light. Mais il y a toujours, on peut avoir un petit harissa. On a un super petit harissa bio tunisien là.
D'accord.
Avec que je travaille depuis 25 ans. Qu'on dilue un peu avec l'huile d'olive ou même une petite goutte de tabasco. Celui qui veut le petit kick.
Ouais, et la texture, Daniel, qu'est-ce que t'en penses du coup?
Moi, j'aime beaucoup.
Ouais.
J'ai vraiment la sensation, comme il disait, en fait, si l'ambition était de reproduire un pulled pork. Moi, je ressens vraiment ça parce que c'est de la viande filochée comme ça et les champignons coupés donnent un peu cette sensation des petits bouts de viande qui rentrent.
Je pense qu'à l'aveugle, on fait goûter ça. On se demande quand même ce que c'est comme type de viande, mais on sent que c'est de la viande.
Et alors, il y a une chose aussi, c'est que au niveau diététique ici, au niveau matière grasse, on est très très bas. Il y a un peu d'huile d'olive pour la préparation des champignons, mais là, le bun aussi est très bon. Il y a un tout petit peu d'huile de colza bio,
ouais.
Et donc la charge en matière grasse, elle n'est pas énorme.
Oui.
Ouais.
C'est assez équilibré, donc c'est-à-dire c'est très digeste aussi.
Ouais, et la référence quand tu insistais sur la partie des poivrons fumés, qui ou même l'été fumé que tu disais, ça vraiment ça porte ces côtés barbecue qu'on ressent vraiment très très fort et ça nous aide à nous projeter, à imaginer qu'on est en train de manger un pulled pork quoi.
Et on sent quand même le champignon. C'est-à-dire vous avez pas, t'as pas complètement écrasé le goût du. Ça fait plaisir à Julien, mais c'est vrai. Hein. on sent quand même qu'on est en train de manger. Alors je suis pas un expert, je pourrais pas dire c'est un pleurote, mais ça sent le champignon. Donc tant mieux. C'est pas de la chimie qui transforme un champignon en viande.
Là, ce qui pourrait être sympa, ce serait d'avoir un petit peu de pleurote crue avec sel, poivre, huile d'olive à côté, juste pour un petit condiment.
Et faire une texture supplémentaire, en fait.
Parce que aussi, dans les champignons, ça, il faut faire comme attention, mais tous les champignons peuvent être consommés crus. C'est quand même assez... par exemple, la morue crue est toxique, alors que cuite... Donc là, il faut quand même faire attention.
Et quand est-ce qu'on va pouvoir goûter ces bannes en France, en fait, parce qu'elle n'est pas encore disponible?
Non, ça arrive d'ici deux semaines, je pense, c'est ça?
Deux semaines, bon, sachant que là, on enregistre mi-janvier, donc c'est fin janvier. Hein. Voilà. Ce sera fin janvier, on va diffuser l'épisode fin janvier, certainement. Donc au moment où on diffusera, nos éditeurs, s'ils veulent tester cette expérience, on les invite à aller dans tous les pains quotidiens, donc... en France, notamment à Paris.
Enfin, et est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire par rapport au BAM? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter par rapport à la collaboration? Est-ce qu'on peut s'attendre à des nouvelles collaborations entre Permafungi? Parce qu'on a vu que Julien, il est encore en train de développer des nouvelles techniques pour faire pousser d'autres champignons.
Shiitake,
est-ce que demain, on va voir d'autres collaborations émerger?
Déjà, avec Permafungi, ça fait pas mal de temps qu'on travaille. On a déjà fait des soupes aux champignons, des quiches, donc c'est pas on s'est pas rencontré d'hier quoi. Hein.
Ouais.
C'est pas un one night stand.
Ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes dans les mêmes lieux à Bruxelles.
Ouais, donc c'est
forcément il y aura
d'autres choses. On est un vieux couple, enfin ouais. trois ans, c'est déjà c'est quoi, c'est les noces de
ouais, je sais pas.
Je sais que c'est pas mal.
En tout cas, merci à tous les deux d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu l'origine, l'exécution de cette collaboration qu'on vient de goûter.
Franchement,
vaut le coup. Surtout que j'étais dubitatif au début sur le côté vegan bun, mais c'est franchement très très bon. Honnêtement, bravo. Surtout qu'on connaît en plus toutes les vertus qu'on a évoquées pendant une heure et demie. Donc merci à vous deux. On croise les doigts pour le lancement et à très bientôt.
Merci.
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 Au revoir. On espère que cet épisode vous a plu.
Toutes les infos sur cette offre sont disponibles sur les sites desgoodbouffe.com.
À très bientôt.